Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, la prise de parole de Vladimir Poutine cet après-midi sur la place Rouge à Moscou. Une prise de parole qui devrait avoir des airs de show médiatique destinés autant aux Russes qu'aux Occidentaux. Nicolas Toneff est dès le début de ce journal et puis on sera ensuite avec Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. La réforme des retraites, Bruno Le Maire était ce matin sur Europe 1 dans la matinale. Vers quoi se dirige-t-on précisément ? Emmanuel Macron est à Pau sur les terres de François Bayrou. On y rejoindra Alexandre Chauveau. Des militants d'extrême gauche ont tiré des mortiers d'artifice sur des policiers. Ça s'est passé cette nuit à Rennes. On va vous raconter cette nuit agitée dans la capitale bretonne. Trois ministres en déplacement en Guyane pour tenter de remettre de l'ordre dans ce département français. Trafic de drogue, immigration illégale, violence. William Molinier est l'envoyé spécial d'Europe 1. Les vendredis thématiques sur Europe 1. Aujourd'hui, la religion woke. On en parlait déjà en matinale. On sera dans Europe Midi avec Paul Sugy, journaliste au Figaro et auteur du livre « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes ». La tendance météo, Anissa Haddadi, avec un peu plus de soleil cet après-midi.
On termine la semaine en beauté avec une magnifique journée d'automne. Des nuages le matin, quelques belles éclaircies l'après-midi dans une atmosphère assez fraîche. Bon, faut noter 2-3 bémols du côté du nord-ouest et de la Corse.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Quelques heures avant la prise de parole de Vladimir Poutine, les bombes continuaient de tomber sur l'Ukraine ce matin. Une frappe dans la région ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les Russes, a fait au moins 25 morts ce matin. Nicolas Toneff avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Que sait-on de ces frappes ?
Alors, a priori, c'est un convoi de civils en voiture qui a été atteint par des roquettes dans cette région coupée en deux de Zaporijjia, dans le sud-est donc du pays. Russes et Ukrainiens, pour l'instant, se renvoient la responsabilité du drame. Les victimes seraient des personnes qui cherchaient à avoir de la famille en zone occupée par l'armée russe. Ces zones tampons qui sont justement celles où les tensions vont monter terriblement avec les annexions annoncées et la nécessaire matérialisation à venir par la Russie sur le terrain des territoires qu'elle s'attribue.
Alors, Nicolas, le président russe Vladimir Poutine a prévu d'entériner cet après-midi l'annexion par la Russie des quatre régions ukrainiennes où des référendums étaient organisés ces derniers jours. On ne sait pas grand-chose du contenu du discours, mais vous nous dites, Nicolas, que la mise en scène sur la place Rouge dit déjà beaucoup de choses.
Oui, c'est ça, cette mise en scène est même déjà une forme de discours. On a le slogan écrit sur fond bleu, « Vmiestie navsigda, ensemble pour toujours, Russie et région annexée ». C'est une adresse aux Russes et au monde, il n'y aura pas de retour en arrière. Le deuxième message, c'est l'aspect festif avec cette grande scène au pied du Kremlin. Ce sont des images qui ressemblent à celles des élections et réélections de Vladimir Poutine, le grand concert, la fête patriotique. Ce sont les mises en scène du porteur de bonnes nouvelles, d'optimisme, de victoire. Il n'est d'ailleurs pas exclu que le patron du Kremlin lui-même se montre. Et pour Vladimir Poutine, c'est un moyen de rassurer les Russes et de reprendre la main dans la confusion actuelle en refaisant de la bonne nouvelle l'image visible, alors que ses services, depuis plusieurs semaines, n'arrivent plus à construire la réalité victorieuse qu'attend le patron.
Nicolas Toneff, merci beaucoup Nicolas. Dans un instant, on sera avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Le dossier brûlant des retraites. Bruno Le Maire était ce matin sur Europe 1 dans la matinale. Il a donné des informations sur le projet du gouvernement concernant les retraites. Sous la pression de ses alliés, François Bayrou en tête, Emmanuel Macron a accepté de temporiser en lançant une nouvelle phase de concertation avec les syndicats et l'opposition. Le président de la République serait ouvert à des concessions mineures. Barthélémy Philippe avec nous. Bonjour Barthélémy.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Mais Emmanuel Macron reste déterminé, vous nous dites, à reporter l'âge de départ.
Oui, pour Emmanuel Macron, ce sera 65 ans ou rien. Après des semaines de réflexion, le président a écarté toutes les alternatives, comme la possibilité d'allonger la durée de cotisation au-delà de 43 ans. Quitte à braquer l'opinion publique, il renoue donc avec sa promesse de campagne, celle d'un report progressif de l'âge de départ de 4 mois par an, aboutissant à 65 ans en 2031. une mesure jugée indispensable par l'exécutif pour équilibrer le financement du système des retraites. Selon le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, invité d'Europe 1 ce matin, cette réforme va aussi dynamiser l'économie française.
Au total, ça vous rapporte déjà de 4 à 5 milliards d'euros du point de vue budgétaire. Mmh. Mais le plus important, c'est que ça augmente le volume global de travail du pays. Et nous, notre évaluation, c'est qu'à échéance de 2027, ça fait un point de richesse nationale supplémentaire pour le pays. Et ça fait 240 000 emplois supplémentaires pour la France. Ça veut dire que la réforme des retraites est une garantie de prospérité et de plein emploi pour le pays. C'est pour ça que c'est aussi important.
Si le gouvernement reste inflexible sur sa volonté de reporter l'âge de départ, plusieurs sujets annexes sont au menu des concertations à venir. C'est le cas de la prise en compte des carrières longues et de la pénibilité du travail ou encore l'avenir des régimes spéciaux de retraite.
Barthélémy Philippe, merci beaucoup Barthélémy. Emmanuel Macron était à Pau ce matin aux côtés de la ministre de la Culture Rima Abdul-Mala, mais aussi et surtout à côté de François Bayrou à Pau. Alors officiellement, le président de la République est allé inaugurer un centre culturel en lieu et place des anciennes Halles, mais ce déplacement intervient surtout après que François Bayrou a marqué publiquement son désaccord quant à une absence de concertation sur la réforme des retraites. François Bayrou disait... En substance, il n'y a pas le feu, n'allons pas trop vite. Bonjour Alexandre Chauveau, sur place.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Les deux hommes ont dissipé les doutes sur la solidité de leur relation.
Oui, pour qui en doutait, il fallait voir la chaleur de l'accueil et la proximité des deux hommes tout au long de la matinée. Tape sur l'épaule, le bras et l'avant-bras. Sourire complice, il n'y a jamais eu de brouille, balait d'ailleurs François Bayrou en privé, satisfait du délai de 3 mois accordé par le président pour discuter de la réforme des retraites. J'ai toujours pensé que ma thèse s'imposerait car elle correspond à un projet démocratique indiscutable, confie-t-il d'ailleurs fièrement. François Bayrou et Emmanuel Macron ont ensuite affiché leur amitié sur la scène de la toute nouvelle salle de concert.
Vous passez toujours en coup de vent. J'ai jamais pu vous montrer les Halles, ce qui est un scandale, n'est-ce pas ? Voilà. J'ai jamais pu vous montrer l'école des arts. J'ai jamais pu vous montrer le musée tel que nous l'avons réhabilité. Et donc, quand vous reviendrez, je vous ferai visiter toutes ces réalisations-là. Celle-ci est pas si mal.
Moi, je viens des Pyrénées, juste d'à côté. Et ma grand-mère, qui était de Bagnères de Bigorre, ou dans un petit village pas si loin, et la seule qui ait jamais fait des études dans sa famille. Puis elle est partie, c'est comme ça que je suis né pour ma part en Picardie. Mais je suis toujours revenu dans ces Pyrénées.
Voilà, et les deux hommes ont assisté ensemble, côte à côte, à la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, jouée par l'Orchestre de Pau. Conclusion en musique de ce nouveau déplacement du président en terre paloise, le 5e en 5 ans.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau. Emmanuel Macron qui n'a rien dit sur la réforme des retraites, Alexandre.
Non, absolument, ce n'était pas l'objet du déplacement et on lui a posé la question, mais il a botté en touche, le président.
Il a botté en touche, ce n'était pas le moment. Bon, merci beaucoup Alexandre Chauveau. Deux informations économiques, écoutez bien. Les ministres européens de l'énergie sont parvenus aujourd'hui à un accord sur des mesures d'urgence pour aider ménages et entreprises à faire face à l'envolée des prix de l'énergie. Ces mesures consistent à récupérer une partie des profits des producteurs d'énergie, certains parlent de super profits, pour redistribuer cet argent aux consommateurs. Cela vise à réduire également, il est demandé également aux ménages et aux entreprises de réduire la demande d'électricité aux heures de pointe. Première information économique. Deuxième information économique, la hausse des prix à la consommation en France qui a ralenti en septembre à 5,6% sur un an, c'est l'inflation, contre 5,9% au mois d'août. C'était 5,9% en août, c'est désormais 5,6% pour septembre. Soirée mouvementée à Rennes. Un rassemblement de militants d'extrême gauche a viré à l'émeute la nuit dernière. Je voulais qu'on en parle dans Europe Midi. Les manifestants s'étaient regroupés dans la soirée en plein centre-ville. Un grand feu a été allumé. Ils n'ont pas hésité à abîmer du mobilier urbain, des chaises, des cartons. Pour Grégory Joron, secrétaire général SGP Police, c'est un appel lancé sur les réseaux sociaux qui est à l'origine des débordements. Il a été joint par Nina Droff. Écoutez.
profil était particulier parce que ça laissait penser, évidemment, et c'est le cas d'ailleurs, à des black blocs ou des groupes ultra-violents ultra-gauche. En fait, c'est l'effet d'un appel sur les réseaux sociaux qui a fait que le cortège a grossi extrêmement rapidement, parce qu'en premier lieu, mes collègues ont évacué le groupe dans le soir sans trop de difficultés. On est passé très vite d'un groupe de quelques dizaines à quasiment 200. Donc c'est ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'on voit que c'est très inflammable et qu'en gros, il y avait quasiment un appel à tuer du flic ou en tout cas à s'en prendre aux policiers très clairement. Ils ont commencé à acheter des projectiles sur mes collègues, des cailloux, des cocktails, des mortiers. 3 policiers blessés, 2 assez légèrement et un peu plus sérieusement à l'épaule.
Voilà, interpellation de 4 personnes dont Grégory Joron nous a dressé le portrait. De l'argent jeté par les fenêtres à Marseille. C'est ce que dit un rapport de la Chambre régionale des comptes au sujet de la gestion des musées de la ville. Les multiples rénovations n'ont pas permis, je cite, d'en faire des établissements modernes. Les musées de la ville de Marseille qui ne proposent pas d'audioguide, c'est vrai qu'on en trouve dans tous les musées du monde entier maintenant, et la médiation écrite n'existe pas en anglais. Ce qui est gênant quand on reçoit des touristes. L'administration dédiée au musée est au service des agents davantage que des publics. Et la Chambre régionale des comptes relève également un niveau d'absentéisme très élevé de la part des personnels. Il est 12h10, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler notamment d'une étude qui nous dit qu'il ne faut mieux pas manger la nuit. Ah oui, pourquoi ? Eh bien, je vais poser cette question à Yasmina Katou, notre journaliste santé. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h12 sur Europe 1, à l'heure du déjeuner. Écoutez, une étude sur l'horaire des repas révèle que manger la nuit augmente le sentiment d'anxiété et de dépression. Au moins 44% des Français travaillent selon un horaire atypique. Alors ça concerne beaucoup de monde. Et parmi ces personnes qui travaillent avec un horaire atypique, 10% travaillent de nuit. Aux États-Unis, des chercheurs de Boston en l'occurrence ont donc découvert que les repas pris la nuit n'ont pas le même impact sur la santé mentale que les repas pris en journée, Yasmina Katou.
Oui, l'étude a été menée sur 2 groupes. Les personnes qui ont mangé durant la nuit ont vu leur niveau d'humeur dépressif augmenter de 26%. Ceux qui ont mangé en journée et sont restés éveillés la nuit n'ont pas ressenti de troubles particuliers. La raison, l'horloge biologique interne, le rythme naturel du corps, n'est pas fait pour assimiler des aliments la nuit, explique Arnaud Rabat. Il est chercheur en neurosciences et spécialiste du sommeil.
S'alimenter la nuit va faire que vous allez perfuser votre organisme de glucose et du coup, ça arrive à un moment où vos hormones qui sont censées stocker ou déstocker ne sont pas produites à la bonne heure, ça provoque une mauvaise assimilation. Et c'est peut-être cette mauvaise assimilation glucidique qui pourrait engendrer des effets au niveau de l'humeur et de la dépression.
Alors pour empêcher ce pic de glycémie et donc les troubles anxieux, l'étude suppose qu'il faut éviter de manger la nuit, comprenez entre 22h et 7h du matin. Cette découverte pourrait être bénéfique pour traiter les personnes souffrant de dépression ou d'autres troubles de santé mentale.
Yasmina Katou, journaliste santé d'Europe 1. Vendredi thématique sur Europe 1. Vous le savez, tous les vendredis, on tente de vous éclairer, d'aller plus loin sur un thème de société pour comprendre son évolution. Aujourd'hui, la religion woke. On parle du wokisme. On en a parlé dans la matinale. On en parle aujourd'hui, à midi, dans Europe Midi. On en parlera ce soir. Ce terme woke vient du mot anglais wake, woke, être éveillé, éveillé aux problèmes des autres, à ceux qu'on considère comme des victimes. Ça regroupe une idéologie centrée sur les questions d'égalité, de justice, de défense des minorités. On s'intéresse à un nouveau métier, celui de sensitivity readers. Bon, en français, relecteur sensible. Une profession née aux États-Unis qui prend de l'ampleur en France, vous allez comprendre. L'activité ne consiste pas à traquer les fautes d'orthographe, mais plutôt les phrases qui pourraient choquer les minorités ou les communautés. Explication avec Thibaut Hu.
Toujours un manuscrit à la main, Albine, une bibliothécaire de 43 ans, est une relectrice sensible. À la demande d'auteurs, souvent blancs, elle corrige des manuscrits mettant en scène des personnages noirs.
C'est vraiment changer quelques tournures de phrases, décrire les couleurs de peau. Par exemple, dire qu'elle a la peau couleur café, alors que les personnes racisées disent elle a la peau brune, elle a la peau noire. La limite, c'est ne pas censurer l'auteur. Ils ne sont pas obligés d'en tenir compte. Nous, c'est vraiment un travail de consultation.
Et ces correcteurs, il en existe pour tous les sujets. Orientation sexuelle, identité de genre, handicap. Et certaines maisons d'édition ont déjà pris le pas, comme Scrinéo. Pour son directeur, Jean-Paul Arif, faire appel à des relecteurs sensibles est devenu systématique et logique dans le processus d'écriture.
On a fait des polars et j'avais un commissaire de police qui travaillait avec nous, avec l'auteur. Ce besoin d'avoir un référent, ça ne pose pas de problème en fait, lorsque maintenant on est sur des sujets plus sociétaux. Pour moi, c'est la même démarche.
Et selon Jean-Paul Arif, la pratique pourrait se démocratiser, même si ces relecteurs sont encore peu nombreux et proposent le plus souvent leur service par le bouche à oreille.
Thibaut Hu, voilà, merci beaucoup Thibaut. Et on va continuer à parler du wokisme et de la religion wok dans Europe Midi dans un instant avec Paul Sugy, journaliste au Figaro et auteur d'un livre, vous verrez, autour du spécisme. C'est passionnant. Claire, c'est pas Claire Lemaître, je me suis écrit Claire Lemaître, du coup je lis Claire Lemaître. C'est Didier Hamot. Bonjour Didier Hamot.
Bonjour Romain, comment ça va ?
Vous êtes pourtant bien en face de moi. Hein. Didier Hamot de boursibou.com, bien sûr. Didier, la tendance à la Bourse de Paris ?
Ça va mieux, ça va mieux. Le CAC 40 remonte d'1%, un peu plus même, 1,1%, 5 740 points. L'indice d'inflation en France, vous en parlez tout à l'heure, moins élevé que prévu en septembre, à 5,6% en norme nationale, un petit peu rassurer les marchés. Alors que l'indice d'inflation est quand même à plus 10% en zone euro. Les valeurs industrielles qui avaient pas mal baissé dernièrement se reprennent aujourd'hui. On a Alstom qui remonte de 4% avec Mersen, Saint-Gobain plus 3% à 36,75€. Arkema aussi plus 3% avec Nexans. Ailleurs, ça remonte un petit peu aussi. La bourse de Francfort reprend 0,7%, Madrid 1%. Et donc le CAC 40 en hausse d'1,1%. Ce midi, 5 740 points.
Didier Hamot de boursier.com. Merci beaucoup Didier. La bourse, hein, tous les jours dans Europe Midi. La météo, Anissa Dadi, avec une vraie belle journée d'automne aujourd'hui.
Oui, tous les ingrédients de l'automne sont là, effectivement. On a eu quelques brouillards ce matin qui sont dissipés maintenant partout. Et puis c'est vrai que ce sont les éclaircies qui prennent le relais. Il fait beau sur les trois quarts du pays. Alors bémol sur la Corse où le ciel est un petit peu plus couvert. Mais les orages de ce matin sont en train de se diriger vers la Méditerranée. C'est orageux aussi sur les Alpes du Sud. Et puis en Bretagne, Bretagne et Cotentin, où le ciel se charge cet après-midi avec des nuages assez épais, porteurs de quelques averses qui annoncent l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Mais ça, c'est pour demain. On n'en parle pas. Les températures, elles sont de saison. On a 13 degrés à Saint-Étienne et au Puy-en-Velay, 15 pour Aurillac et Besançon, 17 degrés cet après-midi à Paris, Caen et Brest, 19 à La Rochelle, 21 pour Ajaccio et Nîmes et jusqu'à 22 à Bastia.
Merci beaucoup Anissa. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va rejoindre William Molinier. Il sera en direct avec nous de Cayenne en Guyane. Il y a trois ministres qui ont fait le déplacement. Gérald Darmanin pour l'intérieur, Éric Dupond-Moretti pour la justice, Gabriel Attal, ministre du budget, donc responsable des douanes. Il s'agit de remettre de l'ordre en Guyane, la Guyane en proie à de gros problèmes d'insécurité. Restez bien sur Europe 1. À tout de suite.